Josette Sédoux.
Bonsoir. Elle fêtait ses 90 ans. La maternité de Saint-Imier ouvrait ses portes aujourd'hui. Depuis 1934, il y a eu entre 8 et 10 000 naissances dans les murs de la maternité. Il y a une année, les services ont fait peau neuve. On va remonter dans le temps avec Astrid Aubin, sage-femme, chef de l'unité obstétrique et gynécologie de l'hôpital de Saint-Imier. Il y a un siècle, l'accouchement, c'était une toute autre histoire. On écoute Astrid Aubin.
Vraiment, avant, déjà, la maternité en elle-même n'existait pas. Souvent, les femmes accouchaient en dispensaire ou à la maison. Donc ça, c'est une grande évolution. Et puis, souvent, la parole de la femme n'était pas entendue ou acceptée. Et la femme n'avait pas conscience de ce qu'elle pouvait demander et conscience de ce qui pouvait être acceptable pour elle ou non.
Comment ça se passait, une naissance, finalement on doit accoucher, on arrive quelque part et puis on se livre un peu à une sage-femme?
Oui, voilà, c'est ça. Il y avait de tout temps, il y avait en tout cas des sages-femmes ou ce qu'on appelait des matrones qui étaient proches des femmes et les guidaient au mieux avec les connaissances qu'elles avaient déjà sur leur travail.
C'est quoi les principales évolutions de la médecine qui ont permis cette sécurité?
Alors, il y a la naissance aussi de l'échographie. On a pu faire suivre les grossesses via l'échographie. Après, il ne faut pas oublier que la clinique aussi, elle est toujours aussi importante malgré le fait qu'on a plein d'outils maintenant tels que le monitoring fœtal, comme je vous disais, les échographes, mais la clinique dans notre domaine, savoir reconnaître l'évolution du travail de par la clinique et ce qu'on apprend pendant nos études reste toujours importante.
Plus de 150 curieux sont venus visiter la maternité de Saint-Imier qui fêtait ses 90 ans aujourd'hui. Quelques futurs parents étaient parmi eux et sont venus voir les salles d'accouchement et aussi rencontrer le personnel. Les portes s'ouvrent sur 200 ans d'histoire du savoir-faire horloger de Saint-Imier. La Biennale du patrimoine horloger a lieu pour sa 11e édition au Locle et à la Chaux-de-Fonds, avec la cité imérienne désormais partie intégrante de la manifestation. Aujourd'hui, le responsable de l'héritage de la marque Longines a fait une de ses rares apparitions. C'était ce matin à Saint-Imier à l'occasion de la Biennale. Le destin de la ville est intimement lié au développement de l'horlogerie. Petite leçon d'histoire avec Daniel Hugues, le président héritage de la marque.
Ça, c'est une histoire très, très intéressante. Par exemple, le chemin de fer est venu à Saint-Imier à cause de Longines. C'était Ernest Francion qui a poussé le développement du chemin de fer dans le vallon de Saint-Imier. Il était aussi président du conseil d'administration des chemins de fer du Jura bernois. Donc, il s'est engagé fortement pour le développement de la région. Il était aussi maire de la ville de Saint-Imier, il était conseiller, même conseiller du Parlement canton Berne et conseiller national. Et il a toujours mis en avant le développement de sa région.
Saint-Imier n'aurait jamais été comme elle est s'il n'y avait pas eu l'horlogerie. Qu'est-ce que ça transforme dans une localité, une entreprise de cette envergure avec cette histoire?
C'est vrai que l'horlogerie suisse a fait vraiment une grande différence à cette région du Jura. En France, la grande partie du Jura, c'est plutôt agricole. Tandis qu'en Suisse, vous trouvez l'horlogerie et plein de fournisseurs, de petits fournisseurs, des PME, qui font quelque chose dans une très haute précision. Ça a vraiment aidé de développer la région, d'augmenter le niveau de la vie quotidienne. Heureusement, chez nous, l'horlogerie suisse est restée, tandis qu'en France, c'est quasiment disparu. La région de Besançon était une fois aussi un centre d'horlogerie avec une école très connue, mais ça a quasiment disparu. Et aujourd'hui, les Français viennent travailler ici parce que les entreprises sont ici.
C'était Daniel Hugues, responsable de l'héritage de la marque Longines. La Biennale du patrimoine horloger s'achèvera par la 48e Bourse suisse d'horlogerie au Musée international, demain à La Chaux-de-Fonds. La vie locale et les services aux clients sont impactés par la disparition des commerces de détail, comme les magasins de vélos. C'est le cri du cœur d'un commerçant de la région du Haut-du-Vallon de Saint-Imier. Le dernier magasin a mis la clé sous la porte à la fin du mois d'octobre. L'enseigne du Braquet était ouverte depuis 2 ans. Pour les cyclistes de la région, il faudra faire des kilomètres pour aller réparer son vélo dans les autres magasins. Le secteur de la vente de vélos est en crise, selon le propriétaire de la succursale salle qui vient de fermer. Il y a encore un espoir avec la génération d'avant Internet apparemment. On écoute Julien Bouille.
On voit que les quadragénaires et plus ont encore ces automatismes de se déplacer chez le commerçant local, alors que la génération, aujourd'hui on le voit, hein, ceux qui ont 20, 30 ans, ils sont beaucoup plus habitués à utiliser Internet pour faire les achats. Mais ces gens-là, ben, c'est les futurs quadras, quinquas et sexagénaires. Et puis, ben, ça me fait un petit peu souci par la suite. On aimerait espérer une prise de conscience. Est-ce qu'elle arrivera un jour ? Ben, ça, on ne sait pas. J'ai un peu des doutes. Mais heureusement qu'il y a toujours aujourd'hui des gens qui font confiance à leurs commerçants de détail localement. Et puis, ça permet de garder en fait, des centres-villes qui sont vivants. Il faut aussi savoir que nous, commerçants, magasins de vélo, on est des organisateurs d'événements. On fait vivre donc, la région. On sponsorise également des manifestations, des triathlons, des courses de ci ou des courses de ça. Il ne faut pas demander à un marchand d'Internet de venir sponsoriser le triathlon de ci ou le triathlon de ça. Ils ne vont pas le faire. Donc, il faut aussi que les gens pensent qu'en faisant vivre le commerce local, ils font aussi vivre la société localement. Et ça, des fois, les gens, ils n'ont peut-être pas ça à l'esprit.
Le propriétaire du magasin confie que l'effet yo-yo sur les ventes après le Covid n'a pas aidé les prix à rester stables et à fidéliser la clientèle au magasin de vélo. Les écologistes réfléchissent à un monde plus juste à Bienne. Plus de 300 membres, militants et alliés des Verts se sont réunis aujourd'hui pour discuter des scénarios d'un avenir post-croissance à l'occasion du premier sommet du changement. Nous nous engageons pour de nouveaux modèles socio-économiques, a déclaré la présidente du parti, Lisa Mazzone. De nombreuses idées ont été débattues en présence notamment d'experts internationaux. Et dernière ligne droite avant l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump abordent aujourd'hui pied au plancher leur dernier week-end de campagne d'une élection hors norme. La vice-présidente démocrate et le milliardaire républicain sont en pleine escalade verbale. Le climat est particulièrement électrique avec une controverse politico-médiatique et des craintes de violence après le 5 novembre, surtout si le résultat est extrêmement serré comme le pronostiquent tous les sondages. Et puis un petit mot de sport, le FC Bienne conforte sa place de leader. Les footballeurs célandais se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Bavois cet après-midi en Promotion League. Grâce au doublé d'Omer Zonaldic, le FCB s'offre un quatrième succès de rang et reste au sommet du classement. Et puis dernier coup de patin avant une pause bien méritée pour le HC Bienne. Il se déplace sur la glace de Genève-Servette à 19h45 dans le cadre du championnat de National League. Les hockeyeurs célandais voudront confirmer leurs bons résultats lors des derniers matchs ainsi que leur victoire d'hier contre Ambry avant la trêve internationale. La rencontre sera à vivre en direct sur RJB dès 19h30. Ça sera avec les commentaires de Jérémy Pignard. Et puis en Formule 1, McLaren s'offre le doublé lors du sprint du Grand Prix de Sao Paulo. Le Britannique Lando Norris a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri qu'il a laissé passer lors du dernier tour sur la piste brésilienne. Le leader du classement général, le Néerlandais Max Verstappen, complète le podium. Et puis un petit mot sur le ciel demain. Eh bien, le soleil sera présent surtout sur les hauteurs avec quand même quelques voiles de stratus en plaine. Et puis on pourra tabler sur 12 degrés également en pleine, 14 sur les hauteurs. Je vous souhaite une très belle soirée.